carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous et bonjour à vous, Jean-Pierre Grivois.
Bonjour.
Bienvenue dans nos studios à Canal Académie. Jean-Pierre Grivois, vous venez de passer 20 ans dans la peau de Jean-Sébastien Bach et de signer un livre à la première personne, « Moi, Jean-Sébastien Bach », paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Jean-Pierre Grivois, vous n'êtes pas musicologue, vous n'êtes pas musicien professionnel, pourtant vous êtes organiste à vos heures. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous introduire ainsi dans la vie de Jean-Sébastien Bach, au point de signer près de 500 pages à la première personne?
Bien, c'est peut-être justement pour ça que je me suis embarqué dans ce travail. C'est parce que, n'étant pas un spécialiste, j'avais remarqué que toutes les publications qui sont écrites sur Jean-Sébastien Bach sont précisément des publications de spécialistes.
De musicologues, essentiellement.
De musicologues ou de pseudo-historiens ou de gens comme ça. Mais que je voulais un peu rafraîchir ce personnage qui m'a toujours fait l'impression d'une sorte de statue du commandeur inamovible, que d'ailleurs nos amis allemands ont contribué largement à faire une sorte de statue, une sorte de personnage emblématique de l'Allemagne. Et j'ai voulu voir ce qu'il y avait sous ce personnage, parce qu'il avait forcément vécu, il avait forcément été un homme à un moment donné. J'ai voulu voir qui était cet homme.
C'est vrai qu'on a surtout une vision de Jean-Sébastien Bach plutôt âgé. Pourtant, il a été effectivement jeune, adolescent. Vous faites partir votre livre de l'adolescence. Et quelles ont été vos sources? Vous êtes allé voyager en Allemagne, je devine?
Oui, alors mes sources, ça a été d'abord un certain nombre de publications sur Jean-Sébastien Bach. Et il y en a tellement que finalement, elles se renvoient tellement à leurs propres sources qu'en en lisant une soixantaine, on arrive à faire le tour du problème. Mais il faut absolument aller aux sources parce que il y a des choses qu'on ne peut trouver que sur place, en particulier une ambiance, voir les paysages dans lesquels ce personnage a vécu, voir les églises dans lesquelles il a pu jouer. Tout ça, c'était essentiel pour donner un ton général au livre. Et j'espère que ça se ressent, que j'ai essayé vraiment de retracer la vie de Bach dans aussi bien dans sa vie de tous les jours que dans sa stature de musicien.
Et dans son contexte historique, hein, vous vous êtes attaché à remettre tous les événements de la vie de Bach dans un contexte plus global d'événements historiques, puisqu'il est né à l'époque du Roi Soleil en France.
Absolument. C'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai rédigé ce livre à la première personne. C'est parce que justement, ça m'a permis paradoxalement de m'éloigner du personnage. Si j'avais dit il, j'aurais été obligé de prendre parti sur le personnage. En disant je peux maintenir certaines équivoques que j'aurais pas pu maintenir si j'avais écrit une biographie classique.
Vous auriez été obligé de rentrer dans tous les débats qui agitent les bacologues.
Et c'est ça que je voulais éviter à tout prix. Bach super religieux, Bach le cinquième évangéliste ou Bach au contraire peu religieux. Je voulais pas du tout rentrer dans ces débats. J'ai toujours pas de réponse et je veux pas avoir de réponse à ce genre de choses. J'ai que des faits devant moi.
Est-ce que vous avez été obligé d'inventer énormément de choses? Comment est-ce que vous vous y êtes pris?
Le fait de rédiger à la première personne, ça a généré une exigence vis-à-vis de moi-même beaucoup plus importante que si j'avais été un simple musicologue. Parce que il a fallu que je vérifie tout ce qui se passait à cette époque-là, les événements historiques, tout ce qui avait lieu. J'ai découvert, par exemple, une chose qui me vient en tête, qu'au moment où Bach était à Leipzig, Frédéric II a fait le siège de Leipzig. Et donc, Bach a vécu le siège de sa ville avec un début de famine. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas du tout dans la vie de Bach. Bon, voilà. Donc là, j'ai croisé des événements historiques et la vie de Bach.
Comment se passe une immersion complète comme ça? Ça doit être un jeu assez plaisant. Et nous-mêmes lecteurs, enfin moi-même lecteur, je me suis parfois prise au jeu de plonger à une époque et à une époque musicale et du coup d'être un petit peu désemparée de temps en temps de revenir à la réalité. Pour vous, cette immersion a duré 20 ans?
Il a duré 20 ans, mais paradoxalement, j'ai l'impression que, ou à aucun moment, j'ai eu l'impression d'être Jean-Sébastien Bach.
Ah bon?
Je n'aurais jamais cette prétention-là, j'ai pas voulu l'avoir, et j'ai toujours eu un certain recul vis-à-vis du personnage, ce qui m'a permis, je crois, de raconter cette histoire. Et c'est vrai, vous n'êtes pas la seule lecteur à avoir eu cette impression que de vivre avec les personnages. Moi, en rédigeant, j'avais toujours un petit recul vis-à-vis d'eux.
Et heureusement, peut-être.
Heureusement, absolument, oui.
Alors, vous faites débuter cette biographie de Bach au moment de son adolescence, au moment où il décide de quitter père et mère et de voler de ses propres ailes, en quelque sorte.
Oui,
vous n'avez pas voulu raconter son enfance ?
Je ne pouvais pas faire autrement, puisque un bébé, ça ne sait pas écrire, par définition. Donc, j'étais obligé de commencer à sa 15e année. Et il y a quand même une rétrospective de tout ce qu'il a vécu dans son enfance, et en particulier l'immense malheur qu'il a eu. En 15 mois de temps, il a perdu sa mère, puis son père, quand il avait moins de 9 ans. Et donc, c'est un peu un artifice littéraire que j'ai utilisé. Et il se rappelle, dans une nuit qui est un petit peu une nuit pascalienne, tout ce qu'il a vécu dans son enfance. Il est seul dans une grange et il revit tout ce qu'il a vécu dans son enfance. C'était un petit peu donc un artifice historique pour raconter son enfance.
Et un artifice de narration aussi,
voilà,
pour vous.
Voilà, exactement. Absolument.
Oui. En fait, on comprend qu'il ne compose pas tout de suite et qu'il commence essentiellement par de l'improvisation.
Oui, alors là, c'est très curieux. C'est un des musiciens, c'était pas du tout un enfant prodige, c'est pas du tout un petit Mozart.
Il n'a pas composé à 5-6 ans
Non. Les premières compositions qu'on connaît de lui, c'est vers 16-17 ans. Il y a peut-être une cause à ça, c'est que, ayant été orphelin et puis ayant passé une partie de son éducation chez son frère, il a été très très laissé à lui-même pendant toute son enfance pour sa propre formation musicale. Il s'est auto-formé.
Il était autodidacte, en fait,
Bach. Il était totalement autodidacte en musique.
Même s'il est né dans une famille de musiciens.
Il est né dans une famille, ça c'est extraordinaire, je peux vous le raconter en 2 minutes, si vous voulez.
Je vous en prie.
C'est que la Thuringe était pratiquement possédée complètement musicalement par la famille Bach. Il y avait entre 30 et 50 musiciens qui avait la charge de la musique dans 30 ou 50 paroisses de Thuringe. Et alors, il se renvoyait la balle entre cousins. Est-ce que tel poste est libre? Est-ce que tel poste est libre, etc. Et Bach ne s'est pas privé de faire ça, puisqu'il a, au cours de sa vie, il a donné des places à des cousins Bach. Il a procuré des places à des cousins Bach.
Par remplacement, jeu de chaise musicale,
exactement.
Pourrait-on dire. Et vous faites aussi débuter la carrière de Bach essentiellement à l'orgue.
Oui, alors ça c'est une chose qu'on
dit. Ou à la voix. Enfin, les deux à la fois. Hein.
Oui, d'abord il a commencé parce qu'une fois que ses parents sont morts, il était obligé de gagner sa vie, le pauvre, parce que son frère lui a dit que ça allait bien, qu'il avait une famille trop nombreuse. Il était chanté tout à fait dans le nord de l'Allemagne, à un endroit qui s'appelle Lüneburg, où il est devenu chanteur par obligation pour pouvoir vivre et pouvoir on lui donnait de la nourriture et puis il recevait quelques sous comme ça. Et il a eu une trouille extraordinaire au moment de son séjour, c'est qu'il a mué. Il a mué et il a eu peur qu'on le fiche à la porte, puisqu'il avait une voix de soprano admirable, et puis tout d'un coup, il ne pouvait plus chanter, puisqu'il était en train de muer. Enfin, vous verrez dans le livre comment ça s'est terminé. Mais pour répondre à votre question, il a commencé essentiellement à l'orgue. Il faut vous dire que son premier poste a été à Arnstadt. Il devait avoir 17 ans par là. Et son office consistait à être présent à l'office du dimanche et le lundi matin. Donc il avait le temps de travailler. C'était cet aspect autodidacte qui est tout à fait extraordinaire, mm-hmm, qu'on retrouve là. Il avait le temps de travailler pour lui énormément. Et il est devenu...
Recopier des partitions.
Voilà, de recopier des partitions. Mais surtout, il est devenu un des virtuoses les plus connus de son époque. C'était comme Liszt, après, est devenu un grand virtuose. Mm-hmm. Et on lui demandait de partout de faire des récitals. Il faisait des acrobaties invraisemblables. Il faisait courir ses pieds sur le pédalier, etc. Et il était connu pendant longtemps comme un grand virtuose de l'orgue et seulement comme un grand virtuose.
Mmh. comme un grand virtuose, donc qui rejoue, qui interprète les œuvres d'autres personnes et qui déjà compose sous forme d'improvisation, c'est
oui,
ça que
exactement.
Vous faites entendre.
Il improvise et Bach étant un perfectionniste forcené, il a du mal, du moins c'est comme ça que je l'interprète, il a du mal à rentrer dans la composition parce qu'il a un peu peur à la limite de composer et de que ça soit pas parfait.
Il y avait des compositeurs dans sa famille.
Oui, oui, ben il y en a de nombreux qui sont restés. En particulier, il avait un cousin-oncle, qui était à Eisenach, qui était un grand musicien et qui l'a un peu initié. Alors voilà, il a piqué un petit peu quelques connaissances chez ce cousin-là, et puis il allait voir ailleurs. Et puis, quand il a terminé son école à Lunebourg, il a fait un grand voyage dans toute l'Allemagne. Il allait chez tous les cousins pour voir ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient, etc. Et il a picoré un peu à droite. Et toute sa vie, on retrouvera la même chose. Il aura un don pour avaler tout ce qui lui parvenait en musique, et après ce sera avec Vivaldi, les Italiens, etc., mais il ingurgitait absolument tout ce qui lui venait, et il en ressortait une synthèse absolument fabuleuse.
Et à cette époque aussi d'adolescence, vous lui faites faire rencontrer des Français. Il aurait été beaucoup imprégné de musique française, Bach ?
Dans l'Allemagne de l'époque, on ne pouvait pas ne pas être imprégné de musique française, pour deux raisons. Parce qu'il y avait quelques centaines de petits princes allemands, et qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Alors, ils entretiennent une toute petite armée, quelques hommes, quelquefois, mais ils utilisaient la plus grande partie de leur argent dans les arts, et en particulier dans la musique. Parce qu'à la suite de la guerre de 30 ans, il y avait de telles destructions et de tels malheurs que la musique avait été le ciment de toute la nation allemande. Et donc, ces petits princes, ils se concurrençaient entre eux pour à qui auraient les meilleurs musiciens. Et alors, curieusement, d'ailleurs, ils payaient les Italiens beaucoup plus cher que les Allemands.
Ah oui.
Et donc, Bach s'est mixé dans tout ça et dans tout ce circuit-là.
Ce qui fait une sorte d'émulation, en fait, pour Bach.
Absolument.
Aussi.
Absolument. Et alors, il y a de nombreux emprunts à la musique française, puisqu'il a connu un des musiciens qui était présent au moment du bourgeois gentilhomme à Paris. C'est quand même extraordinaire, ces raccourcis. Donc, il connaissait très bien la musique française. Et on pouvait pas, quand on faisait de la musique à l'époque, on pouvait ne pas connaître la musique française. C'est un peu comme maintenant les mêmes musiques américaines.
Et la musique italienne aussi.
Et
les influences françaises
oui.
et italiennes étaient à peu près équivalentes.
La musique italienne dans
l'importance de l'influence, je veux dire.
Ça a évolué. C'est-à-dire que tous ces petits princes cherchant à imiter Louis XIV, ils cherchaient aussi à imiter la musique française. Mais il y avait, venant du sud de l'Allemagne, cette poussée de la musique italienne qui avait aussi une influence extraordinaire, mais qui n'avait pas la dimension politique qu'avait la musique française.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il fallait imiter Louis XIV. Là, les princes allemands, ils ne cherchaient pas à imiter Venise, mais ils cherchaient à imiter la musique italienne. Mais il n'y avait pas le petit décalage politique et le petit supplément politique dont je vous parle.
La musique allemande était quand même très riche à l'époque. Et vous relatez évidemment la rencontre avec Buxtehude en 1705, Buxtehude, une des figures de l'Europe du Nord en termes de composition.
Alors, oui, alors là, effectivement, vous avez raison, la musique allemande, une de ses qualités, c'est d'avoir toujours eu, et ils n'ont pas attendu Bach pour ça, avoir un esprit de synthèse remarquable de toutes les musiques qui se faisaient à cette époque-là. Et puis, il y avait cette école spécifique qui était inégalée, qui étaient les grands organistes et les grands faiseurs de musique religieuse du nord de l'Allemagne. Il y avait à Hambourg, à Lübeck, dans toutes les grandes villes. Et alors là, c'était une école vraiment allemande.
Les premières œuvres de Bach apparaissent, les premières œuvres écrites, donc forcément celles qui passent de l'improvisation rédaction.
Les premières
il a à peu près 20 ans,
Il a un peu moins. Les premières œuvres connues, c'est probablement des œuvres. Il y avait chaque année une réunion de tous les Bachs de la région de Thuringe. Ils se rencontraient tous et il y avait 100, 200 personnes avec les enfants, les femmes et tout. Et ils s'amusaient à improviser entre eux des petites choses. Et Bach a laissé des traces, en particulier une sonate charmante dans laquelle il imite le chant du coucou.
Qui est très méconnu d'ailleurs.
Oui, mais qui est extraordinaire.
On pourrait écouter juste après.
Absolument, qui est très amusante. Et aussi, il s'exerçait à chanter à plusieurs voix. et en harmonisant les choses. Bach a certainement été très influencé dans un premier temps par ses fêtes familiales pour faire ses premières compositions. Il a d'ailleurs fait, quand il avait un frère qui est parti au loin en Suède comme oboïste, il a fait une sorte d'ode à mon frère bien-aimé, qui est une de ses premières œuvres.
Ah oui, la fameuse œuvre où il décrit le départ de son frère.
Voilà, c'est ça. Oui,
une
absolument.
Musique relativement descriptive.
Oui, avec le chant du postillon, etc., qui s'en va. Ouais, on entend le postillon, c'est très amusant.
Donc des premières œuvres à l'orgue surtout et au clavecin.
Oui.
Et puis viennent assez vite les cantates qu'il a écrites en grand nombre. Mais c'est après encore.
Oui, alors là, il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte. Qui disait religion, du moins dans la religion luthérienne. Parce que dans la religion calviniste, il était interdit de jouer de la musique sauf des cantiques. Mais quand on voulait faire une carrière dans le monde luthérien, il fallait épouser la carrière de la musique sacrée. Hein, on ne pouvait pas faire autrement. Alors, il y a le vieux débat dans lequel...
Il y a quelques opéras qui ont commencé à surgir à ce moment-là, mais oui. Il était hors de question pour Bach de se lancer dans ce genre de musique.
Alors ça, personne ne comprend pourquoi Bach est pratiquement le seul musicien de son époque à avoir jamais fait d'opéra. Il a fait des cantates profanes, en particulier la cantate des paysans et la cantate du café, qui sont très amusantes, à la limite, d'ailleurs, dans certains cas, de la grivoiserie. Mais il s'est jamais lancé dans l'opéra. Et alors, je me suis risqué à donner une explication dans le livre, qui est que finalement, il aimait trop la musique pour aimer l'opéra. Il trouvait que la musique se satisfaisait à elle-même. Il n'y avait pas besoin de décors et de personnages pour faire vivre cette musique sur une scène. Il trouvait que la musique se suffisait. Enfin, bref, le fait est là, il n'a jamais fait d'opéra.
Alors, vous donnez à Jean-Sébastien Bach un caractère bien trempé, assez près de ses sous. D'où est-ce que vous tirez ces informations d'écrits de lui ou sur lui ?
Bien sûr. Il y a l'exemple fameux des partitions au dos desquelles il faisait les comptes du ménage, parce que pour ne pas perdre de papier, il faisait les comptes au dos de ses partitions. Il reste encore un certain nombre de partitions comme ça. Et puis surtout, il était obsédé par le fait de cet orphelinat de Lunebourg, où il gagnait à peine quelques sous par mois. Et donc, il a été dans la quasi-misère pendant une bonne partie de son enfance. Mais enfin, c'était pas dramatique. À cette époque-là, il y a beaucoup d'autres musiciens qui étaient comme ça. C'était pratiquement un circuit obligé.
Oui, puis la communauté familiale était assez soutenante, j'imagine.
Ça, c'est pas évident. Quand on voit le sort que les 9 enfants Bach survivants à sa mort ont fait de leur mère après...
quasiment une mendiante à la fin de
sa vie. Oui, la piété familiale, la participation familiale, ça, j'avoue que j'ai pas de réponse, parce que je crois pas. Je crois que c'était une époque très dure, hein, après cette guerre de 30 ans, et c'était vraiment du chacun pour soi pour survivre, hein, j'ai l'impression. C'était une époque vraiment dure.
Vous décrivez donc Bach avec un caractère bien trempé, non seulement par rapport à l'argent, mais aussi par rapport à tous ses supérieurs, où il passe ainsi de la déférence à des moments de conflit assez durs, sur la forme donc, mais aussi sur le fond de sa musique, puisqu'il s'essayait à beaucoup de nouveautés, à beaucoup de choses, et que ce n'était pas forcément apprécié. Et on a l'impression, en parcourant votre livre, qu'il y a assez peu de moments où il soit vraiment dans un contexte favorable et qu'il accepte pleinement sa musique, sauf peut-être à Köthen.
Ah oui, ce que j'allais dire, c'est le seul endroit où apparemment il s'est entendu admirablement avec le prince de Köthen, qui malheureusement, au bout de quelques années, a pris pour femme une dame qui avait horreur de la musique, et ça l'a obligé de partir de Köthen. Donc on a retrouvé le même problème.
Donc dans les années 1717,
voilà,
1723.
C'est ça, exactement, oui. Et ce prince de Köthen lui a donné toute l'attitude. Alors, je vais juste vous raconter une petite anecdote parce que c'est extraordinaire. Après la guerre de 30 ans, les principautés ont été figées entre principautés luthériennes, principautés calvinistes et puis quelques principautés catholiques. Et quand il est arrivé à Köthen, il y avait un prince donc qui était calviniste et dont la mère était luthérienne.
C'est possible.
Et alors vous allez voir, cette mère... Donc, avant que ce prince parvienne à sa majorité, elle a été régente de Köthen pendant plus d'une dizaine d'années. Et elle a rendu à son fils la principauté calviniste. Malgré sa foi luthérienne, c'est extraordinaire. Cette femme, qui le respect de la politique établie, elle a gardé son caractère calviniste à cette principauté. Elle a fait construire quand même une petite église luthérienne où Bach a joué, mais elle a tenu à ce que son fils reste calviniste, alors qu'elle aurait peut-être pu agir un peu pour que ça se passe autrement.
Donc des rapports très cordiaux avec le prince de Köthen. Il venait de sortir d'une histoire assez remarquable avec le prince de Weimar.
Ah oui, oui.
Si vous voulez raconter ça. Le duc de Weimar.
Le duc de Weimar.
Qui l'a mis en prison.
Oui, qui était un luthérien pur et dur, à un tel point que il demandait, après chaque cérémonie du dimanche, il prenait au hasard des gens, il leur demandait de répéter ce qui s'était dit pendant le sermon. Et il y avait des sanctions. Et alors, ce duc n'imaginait pas que les gens ne soient pas complètement à sa botte. Et alors, Bach, ça lui a pas beaucoup plu. Il a fait sentir peu à peu une certaine indépendance. Et à un moment, il a dit à ce duc, écoutez, voilà, je voudrais partir. Et le duc, c'était pas dans son univers que quelqu'un même puisse imaginer lui dire qu'il voulait partir. Bref, ça s'est assez mal passé et il a mis Bach en prison pendant un peu plus de 2 mois, à une époque où il faisait malheureusement très très froid. Et on imagine Bach en train de revoir les partitions de l'Orgelbüchlein qu'il venait d'écrire dans sa prison en grelottant. Voilà encore un petit détail qui nous fait descendre du piédestal où on le met d'habitude.
Thank you.
Et donc Bach, qui devait batailler en quelque sorte pour faire accepter sa musique, quelques audaces harmoniques qui nous paraissent encore très modernes à notre époque.
Oui, alors ça c'est un mystère. Moi, j'ai pas réussi à élucider la chose. Parce que le seul cas où, et alors les musicologues en font toute une histoire, le seul cas où c'est vraiment noté dans les écrits, c'est quand il est revenu de chez Buxtehude, où il est marqué dans les comptes rendus officiels qu'on demandait à M. Bach de ne pas faire des excentricités en jouant de l'orgue, avec des harmonies incompréhensibles, etc. Mais je n'ai pas retrouvé d'autres allusions à ça, ni avant ni après. Et ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est une question que je me suis toujours posée. Ce type qui faisait des inventions harmoniques absolument extraordinaires pour l'époque, il y a que cette trace de protestation, mais peut-être qu'il y en a eu d'autres dans la réalité, mais ça je ne sais pas.
Dans votre livre, vous faites état d'autres moments où il y aurait eu des conflits entre piétistes et luthériens pur sucre, comme l'était Bach. Et ce débat portait aussi sur la
oui,
forme musicale.
Absolument, ça portait. Mais alors là, c'est l'éternel débat. Vous prenez... On a fait de Bach le cinquième évangéliste, un type hyper religieux qui ne s'occupait que de... En fait, il n'y a pas de trace dans toute la vie de Bach de sa préoccupation immédiate pour la religion. Ça peut vous paraître extraordinaire, mais c'est comme ça. Il n'y a qu'une chose, c'est dans les marges d'une Bible qu'il a annotée. Il y a 358 corrections, qui sont en général des corrections d'orthographe et de point-virgule, parce que visiblement, ça l'énervait que les typographies ne soient pas bien bonnes. Et puis, il y a trois observations du genre quand, dans la Genèse, quand on cite les sitars et les instruments de musique, alors il met en marge, ah, c'est merveilleux, Dieu est avec nous pour la musique, etc. Mais c'est pas du tout des phrases de théologien ou pas. Les preuves selon lesquelles Bach aurait été un grand théologien n'existent pas. On a retrouvé chez lui, je termine rapidement avec ce sujet parce qu'on n'en aurait pas terminé, mais on a retrouvé chez lui à sa mort une cinquantaine de bouquins qui étaient des bouquins de pure dévotion et qui sembleraient un peu ridicules maintenant, outre les œuvres complètes de Luther et les choses basiques, mais la clé pour aboutir au paradis ou des trucs comme ça, vous voyez, c'était des œuvres, des bouquins qui n'étaient pas du tout des bouquins de théologiens.
Et pourtant, permettez-moi d'insister, dans votre livre, vous en faites quand même un théologien, quelqu'un qui est très préoccupé par Dieu et qui serait aussi dans cette ambivalence, est-ce que je fais de la musique pour la gloire de Dieu ou est-ce que je fais de la musique parce que le cœur m'en dit ?
Ben, si vous lisez le livre jusqu'au bout, vous verrez que la réponse est à la fin. Et que finalement, Bach, à mon avis, est avant tout un musicien. Mais,
parce qu'à la fin de sa vie, il se pose moins de questions.
Ne pas avoir la religion officielle à l'époque de Bach, ça serait comme maintenant, je ne sais pas moi, faire un acte de révolte absolument inadmissible. Hein. C'était dans les mœurs. Il y a beaucoup, par exemple, d'airs de cantates et de chœurs de cantates qui ont été faits à la fois... pour des princes qui venaient rendre visite à Leipzig et puis sur lesquels il a mis des paroles religieuses après ça.
Oui.
Il y a une chose que tout le monde trouve admirable dans le domaine religieux qui s'appelle l'oratorio de Noël. Eh bien, vous n'avez que une ou deux œuvres authentiquement religieuses dans l'oratorio. Tout le reste, c'est des emprunts à des œuvres profanes.
Et la déférence à Dieu peut se comprendre aussi
oui, mais
avec la déférence avec le
prince. Mais lui, il ne sait pas, à la limite, je crois, vous comprenez. Et c'est pour ça que cette question de cette foi ou pas de cette foi, ça se mesure plus en termes de niveau de préoccupation théologique. Mais il avait autour de lui, à Leipzig, des diacres, des machins, des tas de gens qui lui... Même dans le choix des textes, hein, il s'est battu un petit peu parce que les textes, il trouvait que ça équilibrait pas bien sa musique. Mais le travail lui était mâché au point de vue théologique par les gens. Là, il y a une erreur d'interprétation, à mon avis, qui consiste à dire que Bach a fait une interprétation de la Bible qui est à lui. Mais non, faut voir le consistoire, ce que c'était, la puissance de la religion à l'époque. On n'allait pas laisser un petit musicien... Raconter n'importe quoi en matière de religion. Alors qu'il y ait certains diacres et certaines personnes qui étaient influencées par le piétisme et d'autres moins, bon, ben d'accord, il a peut-être sympathisé, en particulier à Mühlhausen, davantage avec un non-piétiste qu'avec un piétiste, mais enfin, ce ne sont que des indices extrêmement faibles.
Jean-Pierre Grivois, il y a quand même un moment dans le livre, dans ce livre « Moi, Jean-Sébastien Bach » paru aux éditions Héloïse d'Ormesson, où vous faites faire à Bach des circonvolutions et un débat intérieur, où il se demande quelle vision du monde il doit avoir, si il pourrait pas faire davantage surgir ses sentiments, on vient d'en parler. Et c'est à ce moment-là, que c'est à cette date-là que vous faites remonter le début des pièces pour instruments seuls, pour piano, pour clavier beaucoup, et puis les pièces pour violoncelle seule, vous y voyez, vous, un lien ?
Oui, parce que c'est vraiment les premières pièces. On a beau chercher un caractère religieux dans les suites pour violoncelle seule, moi j'avoue que c'est tellement de la musique pure, pour moi, qui transcende tout, je crois pour tout le monde, d'ailleurs, il n'y a pas que pour moi, que quand il arrive à Köthen, il découvre cette expression musicale hors sacrée, parce que jusqu'à présent, il avait été quand même pris dans cette chape de l'éducation et il ne vivait que par l'Église et pour l'Église. Hein. Et Köthen, c'est le début d'une série de chefs-d'œuvre instrumentaux, en particulier les concerts brandebourgeois, toutes les suites pour violoncelle seule, les sonates pour clavecin et violon.
Le clavier bien tempéré aussi.
Le premier tome du clavier bien tempéré. Il y a aussi les sonates pour flûte seule.
Oui.
Et pour flûte et basse continue. Il y a toute une série de chefs-d'œuvre absolus de musique profane, et cette musique profane, il ne l'abandonnera plus jamais, même à l'orgue. À l'orgue, il y a un grand nombre de chorales et de musique religieuse, mais certains musicologues hyper partisans du Bach religieux ont donné des interprétations religieuses de certaines œuvres de Bach, mais pour orgue. Mais quand on voit les sonates en trio ou certaines fantaisies et fugues, on se demande comment ils peuvent se raccrocher vraiment à une interprétation religieuse de la chose.
Une autre grande question qui a secoué beaucoup de bacologues, si je peux les nommer ainsi, c'est la question de la numérologie, bac et les chiffres. Et c'est vrai qu'il y a une œuvre où incontestablement il a repris les quatre notes de son nom, B-A-C-H, dans l'art de la fugue. Et vous, vous amusez aussi à interpréter beaucoup de dates en faisant référence soit aux dates en terminant par 5 ou par 10. Il y a des moments forts comme ça dans sa vie qui correspondent à des chiffres.
Oui, alors...
Sur quoi est-ce que vous vous basez ?
Je crois d'abord qu'il y a certains excès qu'il ne faut pas commettre. Il y a un ami qui m'est cher, que vous avez interviewé récemment, qui s'est amusé à retrouver 10 fois son nom dans l'œuvre de Bach, en tripotant les chiffres et en arrivant. Donc, finalement, en prenant soit le nombre de mesures, soit le nombre de notes, soit les dates des gens, en additionnant les chiffres entre eux, on peut pratiquement retrouver ce qu'on veut en numérologie. On peut faire dire ce qu'on veut. Maintenant...
Il y a des traces écrites que Bach ait été amusé par ce genre de jeu.
Non, mais ça se sent dans sa musique. Si vous voulez, il y avait aussi un autre... Une autre chose importante, c'est que ça appartenait à la culture de l'époque. Il fallait retrouver le chiffre et c'était un peu le symbole de la construction de l'univers. Et le maniement des chiffres était quelque chose d'important. Maintenant, quand on voit la complexité de certaines œuvres de Bach qui divisent le nombre de mesures par deux, le multiplient par deux et les temps qui vont deux fois plus vite ou deux fois plus lentement. Quand on voit que quand même, comme vous l'avez dit, il met son nom B-A-C-H au terme de l'art de la fugue, on se dit qu'il avait quand même une certaine préoccupation des chiffres. Et puis, on peut pas avoir été le musicien qu'il a été sans avoir eu certaines aptitudes dans ce domaine. Donc j'ai maintenu un petit peu l'équivoque, mais il faut pas non plus sombrer dans l'autre extrême qui considérait, parce que moi je me suis amusé à calculer un jour que si on avait fait dire à Bach tout ce qu'il a calculé dans les chiffres, il aurait passé beaucoup plus de temps en calcul qu'à composer, à la limite.
Et pourtant, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très mathématique dans ses œuvres.
Il y a quelque chose de très mathématique, mais vous avez vu aussi qu'il dit à un moment un fils, mais c'est un de ses fils, c'est vrai. Et il l'a dit, la musique passe avant tout, c'est pas la technique de la musique. Il n'aurait pas été le musicien qu'il a été s'il avait fait uniquement de la technique. Il y a des tas de gens qui ont fait de la musique figurée dans son temps, avec des chiffres dans tous les coins, qui sont complètement oublié maintenant. Ce qui est extraordinaire chez Bach, c'est que, bien que se donnant probablement des canevas comme ça de temps en temps, même souvent, il arrive à en sortir des choses extraordinaires. C'est pas la technique, on s'en fiche à la limite de ces chiffres. Ce qui est important, c'est que ça soit beau. Et ce qu'il disait
c'est
lui-même.
C'est beau et rigoureux à la fois.
C'est beau et rigoureux à la fois. Moi, je suis convaincu qu'il se servait. Il y a une histoire assez amusante où on raconte que quand il commençait à jouer ou à improviser, il fallait qu'il joue quelque chose d'un musicien un peu mineur avant, pour se mettre en doigt, et puis après ça, il sortait un truc merveilleux. Je me demande si certaines dispositions de chiffres ou certains trucs qu'il avait décidé comme ça d'avance n'étaient pas un tremplin pour donner une sorte de canevas pour donner plein cours à son imagination créatrice. Mais je crois que c'est ça la vraie chose. Sans ça, s'il n'y avait que des chiffres dans Bach, ça n'aurait qu'un intérêt.
Thank you.
Vous parliez un instant de conversation que vous imaginez entre Bach et son fils, en l'occurrence son fils aîné Guillaume, si je me souviens bien dans votre livre.
Oui, avec Guillaume et puis aussi avec Carl-Philippe Emmanuel.
Qui est un des plus connus de ses fils, effectivement. Et c'est assez amusant la façon dont vous imaginez le rapport, comme ça, père-enfant, Bach, qui lui-même, ayant été autodidacte, ayant perdu ses parents très tôt, se demande comment il pourra transmettre sa musique et ses connaissances à ses enfants et du coup imagine des méthodes d'apprentissage.
Oui. Mais alors là, il y a deux aspects dans votre question. C'est tout à fait passionnant. Il y a une chose qu'il faut bien voir, c'est ce qu'on disait au début, c'est que Bach est né en 1685, année de la révocation des édits de Nantes, Louis XIV en pleine splendeur, et il est mort en 1750, à l'époque où Jean-Jacques Rousseau avait publié un bon nombre de ses écrits déjà. Donc une période de transition absolument inouïe, et d'autant plus inouïe que l'Allemagne, en raison de la guerre de 30 ans, est pratiquement passée directement du stade Moyen-Âge au stade de l'époque classique. Il n'y a pas eu la période de la Renaissance. Donc, il y a eu des mutations dans l'esprit des gens qui se sont fait à une vitesse absolument extraordinaire. Et on voit d'ailleurs, au fil des ans, que la fréquentation des églises au cours de la vie de Bach a tendance à diminuer progressivement, à Leipzig en particulier. Je lui fais avoir une conversation avec la sœur de sa première femme, qui est restée à vivre très longtemps avec lui à Leipzig, et cette pauvre femme manifeste son désarroi devant les transformations de la société à son époque. Et faut pas oublier que quand même, en 1750, le premier roi de la civilisation qui est prétendu ne pas avoir de religion, qui était athée, régnait depuis déjà 10 ans, c'est Frédéric II. Frédéric II de le Prusse, c'est quand même une innovation extraordinaire. Ce roi qui, pour la première fois de toute l'histoire, dit qu'il n'est pas d'obédience divine. Alors que toute la société reposait là-dessus. Tous ces petits princes, cette histoire que je vous racontais sur la princesse de Köthen tout à l'heure, il fallait absolument respecter la religion. Il y avait une identification entre Dieu et le petit prince qui le représente sur la terre, et Louis XIV en est la manifestation absolument totale. Il y avait une superposition totale entre le temporel et le spirituel, à un point que les gens distinguaient pas bien si le roi c'était l'envoyé de Dieu, si c'était Dieu ou pas. Et d'où aussi cette vision que je vous ai donné tout à l'heure de la musique de Bach, qui est une vision globale. Entre le profane et le sacré, pour lui, il n'y a pas tellement de différence. Mais comme il est très intelligent, je lui fais se poser des questions dans le livre quand même sur le sujet.
Dans votre livre, Jean-Pierre Grivois, moi, Jean-Sébastien Bach, évidemment, vous parlez de Bach et ses enfants et la génération suivante, qui le fascine et qui lui échappe à la fois. Et évidemment, Bach et ses deux épouses, deux chanteuses, en fait, dont l'une, la seconde, a même été chanteuse professionnelle, ce qui était tout à fait novateur à l'époque.
Oui, elle était chanteuse à Köthen, mais une chose très curieuse, elle était d'une famille de trompettes. Tout le monde jouait de la trompette dans sa famille, sauf elle qui chantait. Parce qu'elle était femme, alors à l'époque, ça se faisait pas pour les femmes
de jouer de la trompette.
Parce qu'il fallait avoir une force herculéenne. Bach, là j'ouvre une parenthèse, mais en jouant une cantate de Bach, il y a un trompette à Leipzig qui est mort d'apoplexie, parce qu'il fallait une puissance, c'était d'une virtuosité invraisemblable. Et donc, cette dame était d'une famille de trompettes. Quant à Barbara, sa première femme, c'était la fille d'un de ses cousins germains. Mmh. Donc, elle s'appelait Bach aussi. Et on dit qu'elle chantait avec lui dans l'église. Mais enfin, ça c'est... Il y a un écrit qui dit qu'il semblerait qu'elle ait chanté avec lui dans l'église, qui était formellement interdit aux femmes dans certaines principautés à ce moment-là.
Et donc, l'une et l'autre auraient pu influencer Bach dans la composition d'œuvres chantées et qui mèneront aux passions.
Non, mais moi je crois que Bach, par esprit de stabilité familiale, étant donné qu'il avait été orphelin de père et de mère à 9 ans, elle devait être obsédée par cette stabilité familiale. Et chose très curieuse, quand Maria Barbara, sa première femme, est morte, il a mis près de 2 ans à retrouver une nouvelle femme. Alors que j'ai calculé, je me suis fait un petit calcul, la moyenne de tous les Bachs, quand ils avaient une femme qui mourait, ils se remariaient après 6 mois, 8 mois maximum. Et quant à savoir maintenant quelle a été l'influence de ces femmes pour dans la musique de Bach, moi je crois que on voit des chants d'amour extraordinaires dans des cantates sacrées et des cantates profanes, et qui vont au-delà de l'amour qu'il pouvait éprouver pour telle ou telle femme. Je crois que l'inspiratrice, la femme inspiratrice, c'est un concept un peu romantique. Mmh. Et qui verra le jour un petit peu après, et que à l'époque de Bach, la femme était quand même beaucoup une ménagère.
Anne-Madeleine, vous lui donnez quand même un autre caractère.
Oui, parce qu'ayant été chanteuse professionnelle, elle était un petit peu plus. Et puis elle a beaucoup participé à l'ensemble.
Et elle jouait du clavecin aussi.
Ça, je sais pas. Ça, c'est vous qui me l'apprenez.
Ah, c'est ce que vous dites dans le livre.
Oui, mais enfin, tout le monde. Mais elle jouait du clavecin comme tout le monde dans ce temps-là.
D'accord.
Hein. Elle, c'était pas une claveciniste professionnelle, c'est ça que je veux dire. Et elle chantait pas mal, apparemment, puisque Bach lui a composé un certain nombre de choses, nommément pour elle, oui. Mais est-ce qu'elle était vraiment l'inspiratrice ou pas, ça, je...
Pour revenir aussi au rapport entre Jean-Sébastien Bach et ses enfants, il y a un moment assez que je trouve très, très, très beau où vous imaginez que Bach ait pu avoir une interaction, un échange avec son fils Guillaume, particulièrement pour la composition de la Passion selon saint Jean.
Oui, parce qu'il y avait une telle fusion entre ces deux êtres qui étaient visiblement le préféré de Bach et le pauvre... Guillaume, il s'en est parmi. D'ailleurs, il a eu une vie complètement dissolue après, et quand son père est mort, il s'en est pas relevé. Que j'ai pensé que, arrivé à un certain âge, Wilhelm Friedman a pu discuter de sa musique avec son père. Il faut pas oublier que quand Wilhelm Friedman jouait de l'orgue à Dresde, quelques années plus tard, il était considéré comme un plus grand improvisateur que Bach lui-même. Donc il avait des dons, d'ailleurs certaines de ses compositions le montrent, mais les compositions de Wilhelm Friedman, c'est incroyable, c'est tantôt du Bach, Jean-Sébastien, tantôt des trucs complètement farfelus et sans suite. Mais on sent une source de génie qui n'a pas été canalisée, et moi je suis sûr qu'ils ont communiqué entre eux, ils étaient vraiment très 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 proches l'un de l'autre. La preuve, c'est que d'ailleurs, Bach a fait un petit livre spécial pour lui apprendre la musique. Et là, c'est un côté dont on peut parler, si vous voulez bien, maintenant, parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est le côté pédagogue.
Bach professeur de musique et Bach père.
Oui, je lisais l'autre jour un article sur le 100e anniversaire de la mort de Messiaen. Et il me venait à l'esprit un parallélisme entre Messiaen, pédagogue, qui a été un grand pédagogue, professeur au conservatoire, etc. Et Bach, qui était aussi un pédagogue, mais qui passait un temps à enseigner extraordinaire. Et il y a des détails dans sa vie sur la manière dont il enseignait. Il a fait toute une série de compositions spécialement pour l'enseignement. Et les inventions, il y en a une série de trucs qui s'appellent les claviers Übung, c'est-à-dire pour s'entraîner au clavier, c'est pour le clavier. Et bien souvent, ces œuvres sont faites dans un but didactique, avec cette obsession que vous disiez tout à l'heure, très bien, de transmettre ses capacités, ce qu'il avait appris en musique. D'ailleurs, il y a eu un nombre il y a certains biographes qui font une liste de tous ses élèves, mais c'est extraordinaire, hein. Il y en a plusieurs dizaines qui se revendiquent de lui longtemps après sa mort.
Oui, pas seulement ses enfants, mais toutes les personnes qu'il a formées à l'église.
Et quand même, arriver à produire des gens au point de vue enseignement comme Wilhelm Friedman, comme Carl Philipp Emanuel, comme son fils qui est mort jeune, et comme Jean Chrétien, c'est quatre très grands musiciens de leur époque.
Et puis on imagine que rien que pour exécuter les œuvres de Bach, il a dû s'entourer de musiciens et les former et avoir une exigence
bien
particulière.
Bien sûr, bien sûr. Il y a le fameux exemple du café Zimmermann, où il jouait, et il est pratiquement sûr que le jour où il a transcrit pour quatre clavecins un concerto de Vivaldi, c'était parce qu'il y avait lui et ses trois fils musiciens qui jouaient. Il s'est amusé, mais parce que Bach était un type qui était capable de s'amuser, contrairement à ce que Mendelssohn et compagnie ont voulu en faire une statue inamovible. Non, c'était un type gay, qui avait peut-être son petit caractère, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais qui était gay. Il allait au café, il buvait du vin au café, il aimait bien le vin, ça c'est attesté. Et il avait une joie de vivre, peut-être, qui était issue aussi de ces difficultés qu'il avait dans son enfance. Tout ça en fait un être extrêmement complexe, hein. Et tout le monde dit que, autre critère, que c'était un type très accueillant, parce que Carl Philipp dit dans la notice qu'il a rédigée sur lui que il était exclu que tout musicien un peu connu traverse Leipzig sans aller voir Bach, et que la maison était une vraie fourmilière. Il utilise le mot fourmilière, de gens qui faisaient de la musique. Il a reçu les plus grandes chanteuses de son temps. Il faut pas du tout voir le type dans son cabinet de travail en train d'être enfoncé dans la composition de la Passion de Saint-Jean et d'une cantate sacrée. Non, il avait une ouverture totale sur la musique, ce qui rejoint ce qu'on disait tout à fait au début, ce caractère d'éponge. Il s'imbibait sans arrêt de ce qu'il faisait. Il a quand même, à la fin de sa vie, recopié et fait quelques modifications au Stabat Mater de Pergolèse, dont il a changé les paroles, d'ailleurs. Il a mis des paroles allemandes à la place. Et c'était une musique très moderne pour cette époque-là. Il s'imprégnait de tout ça. Et on voit, contrairement à ce que les gens peuvent le dire, on voit une évolution dans le caractère de sa musique qui épouse l'époque, hein. Les derniers chœurs, là, j'ouvre une parenthèse parce que c'est important. Les derniers chœurs qu'il a composés, qui sont ceux du Credo de la Messe en Si, sont des chœurs déjà qui sont plus de la période baroque, hein, qui sont des chœurs d'un contrepoint devant lesquels Mozart et autres se tomberont en émerveillement et qui copieront joyeusement. Mais il y a une évolution, et ça c'est important de le faire savoir, je suis content de pouvoir le dire ici. Bach, c'est pas un type, on a trop une vue d'un type statique qui a fait toujours la même chose. Il y a une évolution dans son expression musicale qui est extraordinaire.
Alors Jean-Pierre Grivois, pour raconter, narrer la fin de la vie de Jean-Sébastien Bach, on sait que Jean-Sébastien Bach perd la vue à la fin de sa vie, et par artifice de narration, du coup, vous dites, moi Jean-Sébastien Bach, je ne peux plus écrire, mais je dicte la fin de ce livre à mes proches, à mon épouse, à mes fils. Est-ce que vous voudriez bien lire certaines de ces choses dictées ?
Bien, bah écoutez, volontiers. La première, c'est en mars 1750, donc presque, il n'a plus que quelques semaines à vivre. Et voilà la lettre qu'il dicte à Anna Magdalena. « Aujourd'hui, je ne ressens ni battement de cœur ni vertige. Le docteur Kelmartz m'a ausculté. Il affirme que mon aveuglement est guérissable. Il connaît deux spécialistes dans son domaine. L'un est français et l'autre anglais. Il se peut que l'anglais, le chevalier Taylor, passe prochainement à Leipzig. Ne voyant désormais que la lumière spirituelle, je suis gêné dans l'accomplissement des nombreuses tâches qui m'incombent envers les hommes. Si à la moindre chance qu'un charlatan puisse améliorer ma vue, je la saisirai. C'est également ce que me conseillent plusieurs de mes amis qui me reste et en qui j'ai confiance. Je profite de cette relative inaction pour jouer de l'orgue. Je vais parfois à Saint-Thomas, guidé par ma femme ou l'un de mes fils. Jouer sans pouvoir voir me procure une joie inconnue. Devant moi s'ouvrent de nouvelles voies vers la musique, vers le Seigneur. Ce qu'ils appellent l'art de la fugue ou ma grand-messe n'est rien comparé à ce que j'entrevois. Parfois j'ai l'impression d'être seul quand je joue dans cette église. » Dictée à Catherine, à ma fille aînée. J'ai demandé à Catherine de m'accompagner à la conférence du chevalier Taylor. Il a donné en français une leçon de 3 heures. J'y ai reconnu tous les notables à leur voix. Je ne pouvais voir s'ils me regardaient, mais d'après ce que j'entendais, Catherine sut ne pas nous faire remarquer. L'intonation du français m'a revigoré. Nous sommes allés voir Taylor afin de savoir quand nous pourrions nous rendre chez lui pour qu'il me paie. Dictée à M. Mutel, mon nouvel élève. Taylor m'a opéré. Je suis allé par 2 fois à son domicile. Je n'y vois pas grand-chose, mais mon état de santé, qui rend mes déplacements difficiles, s'est un peu amélioré. Taylor clame partout que je vais guérir. Je lui ai demandé de me parler franchement. Il m'a confié qu'il y a peu d'espoir pour que je recouvre la vue. Il ne s'agit pas d'une cataracte, ou du moins d'une de ces formes qu'il connaît. Mais rien n'est impossible à notre Seigneur, c'est sa volonté qui compte et non celle des charlatans. Quand je ne prends pas les médicaments qu'il m'a prescrits et qui enflamment horriblement mes humeurs, je vais mieux. Je remercie M. Mutel d'écrire sous ma dictée. Il vient d'arriver pour que je lui offre quelques leçons. Je lui donnerai son 3e cours demain. Enseigner sans voir est une curieuse façon de procéder, mais M. Mutel semble s'habituer à son nouveau professeur. Juin 1750, dictée à Bamler, mon irremplaçable premier préfet. Désormais, j'irai quotidiennement jouer à l'orgue de Saint-Thomas. Görner ne m'en veut plus, plus personne ne m'en veut. J'ai distingué le sourire d'Ernesti, le recteur, pendant que j'improvisais une double fugue à 6 voix parfaitement symétriques sur lesquelles s'ouvrira mon prochain cahier. Mon brouillon, Schubler, cette plume qui m'a lâché. Mais qu'importe, puisque d'autres formes musicales sont enfantées par mon cœur, des sons que jamais les hommes n'ont entendus. Quelle heure est-il ? Je vais donner ma leçon à Mutel. Je vais aussi modifier certains de mes chorales. Je vais aller à ma table de travail. Juillet 1750, dictée à Nicole, mon bien-aimé gendre. Ma fille et son époux sont là. Quelle joie, je les vois. J'ai recouvré la vue. Je vais pouvoir écrire. Mes fils, mes filles, notre maman, mes chers élèves, vous êtes tous venus me voir. Mais non, en réalité, vous êtes ici pour... Je sais, Dieu m'a rendu la vue pour que je vous regarde une dernière fois. Enfin, je vais retourner vers lui. Je vais rejoindre ma mère. Aucun autre monde n'a aspiré au repos éternel chaque jour de sa vie tant qu'elle est moi. Nous allons tous chanter ensemble le choral que j'ai préparé pour le jour de ma mort. Après quoi, Alt-Nicole le jouera, comme je lui ai dicté. L'orgue est-il là ? Ensuite, j'irai vous attendre pour l'éternité, avec de si belles musiques que les humains ne pourraient les entendre sans mourir. Chantez avec moi les paroles que je vous ai apprises. devant ton trône, j'apparais maintenant, ô Dieu, je te prie humblement, ne détourne pas ta sainte face de moi, pauvre pécheur. Donne-moi une fin bénie, le dernier jour réveille-moi, le Seigneur, que je puisse te voir éternellement, ainsi soit-il, écoute-moi.
Merci beaucoup Jean-Pierre Grivois pour la lecture de votre livre. Moi, Jean-Sébastien Bach, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Merci d'être venu sur Canal Académie pour nous en parler.
Eh bien, merci beaucoup de m'avoir reçu.